Comme souvent dans l'histoire des technologies, la révolution n'a pas eu lieu là où on l'attendait. Depuis des décennies, on s'était fait à l'idée que l'hybridation avec les machines, elle se ferait par le corps. On savait pas trop si ça passerait par des objets qu'on porterait sur nous, par des prothèses ou des exosquelettes, par des puces qu'on glisserait sous la peau ou des implants reliés à notre cerveau. Enfin, il semblait assez évident que ce serait physique.
Vous êtes prié de ne pas approcher des fenêtres ou des portes.
Désactive. Mets en route la coupure d'urgence.
Nous essayons d'éviter les pertes humaines durant la transition.
Vous êtes un excellent tireur, jeune homme. Vous vous appelez ?
Murphy.
Or, quand est apparu ChatGPT, et dans la foulée plein d'autres IA conversationnelles, on a tout de suite compris que ça se passerait ailleurs.
Bonjour,
salut,
tu vas bien?
Salut, ça va?
Salut, super,
ça va
tu très
bien,
merci.
Aujourd'hui.
Et toi?
Moi, tranquille, je viens de finir mon master.
Félicitations
Miam,
pour ton master.
Des sandwichs au bacon, c'est délicieux. Tu les prépares avec des ingrédients particuliers ou tu restes simple?
Évidemment, il y avait des signes avant-coureurs. Mais pour le grand public et même, d'ailleurs, pour une partie de la communauté des chercheurs en IA, GPT a fait apparaître une évidence. Ce que nous partageons désormais avec les machines, c'est notre langage. Le lieu de notre hybridation avec les machines, c'est la langue. Et pour moi, ça reste un mystère dont je peine à comprendre à la fois comment il est advenu et ce qu'il signifie. Parlons-nous vraiment la même langue avec les machines ? Qu'elles puissent nous répondre de plus en plus correctement, est-ce que ça signifie qu'elles nous comprennent ? Est-ce qu'elles savent ce qu'elles disent ? Alors, je pense qu'une bonne part des questions que nous nous posons aujourd'hui sur l'IA, elle ne peut être résolue ou du moins correctement posée que si on comprend vraiment ce qui se passe quand les machines nous parlent. Alors, dans l'épisode précédent, Patrick Pérez a ouvert le capot, comme on dit. En racontant comment il s'y prenait avec ses collègues pour fabriquer un chatbot qui interagit le plus naturellement possible avec nous, il a expliqué plein de trucs. Et pour ma part, j'y vois un peu plus clair sur comment on s'y prend pour faire parler une machine.
De la porte.
Mais en écoutant Patrick, j'ai pas arrêté de penser à un livre que j'avais lu il y a 2 ans. Un livre que l'on doit à un type assez étonnant du nom d'Alexei Greenbaum. Alexei Greenbaum, en plus d'être né en Russie et être arrivé en France il y a 25 ans, il a la particularité d'être à la fois physicien au centre de l'énergie atomique, où il travaille sur la mécanique quantique, et aussi philosophe, notamment sur des questions touchant à l'éthique de l'IA. Autant dire que le type est assez balèze. Et j'ai lu ce livre parce qu'il s'appelle « Paroles de machine » et qui s'attaque précisément à cette question du langage. Et le livre, il est assez déroutant parce que, à la fois, il est très précis techniquement à des moments, et il se permet à d'autres moments des rapprochements avec la cabale, avec la philosophie du langage et même la littérature.
Le code a changé.
Mais son cœur, c'est précisément ce qui me préoccupe. Le fait que pour la première fois dans notre histoire, nous partageons notre langage avec d'autres entités que les humains. Et fait encore plus troublant, nous avons créé ces entités. Alors après avoir discuté avec Patrick, je suis allé voir Alexei Greenbaum sur le campus du CEA un matin de printemps sur le plateau de Saclay. On s'est installé dans une bibliothèque et pour commencer, je lui ai demandé si pour lui, il était étonnant que l'hybridation avec les machines ait commencé par le langage et pas par le corps.
Franchement, non, je n'ai pas été étonné. Pourquoi ? Parce que on adore imaginer la fusion, les interfaces invasives, on va mettre un truc dans le cerveau, tout cela. En pratique, l'humanité, les utilisateurs, sont très réticents à vraiment changer la nature physiologique du corps humain. Et le langage, justement, ça n'est pas invasif physiologiquement, je veux dire. Bien sûr que c'est invasif parce que ça façonne nos pensées, ça façonne notre manière d'être dans le monde. Anna Arendt disait dans les années 50, dans le Human Condition, dans la condition humaine, elle dit « Tout ce que nous sommes, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle et même la vie politique, tout ce que l'homme est dans le monde, il en fait sens dans la langue et à travers la langue. »
Ce que dit Alexei, là, ça me rappelle des scènes de films de Verhoeven ou Cronenberg, où il y a une hybridation très forte de l'humain et de la machine, mais où c'est montré comme un truc très très peu fluide, même assez dégueu.
Ah, non, arrête! Ça fait très mal.
Je vais couper le cordon.
Oh.
Et ça, ça contraste avec le côté très, très aseptisé des interactions entre le héros et son IA dans Her de Spike Jonze, où là, tout passe par la langue.
Salut.
Bonjour, je m'appelle Samantha. Bonjour, Théodore.
Bonjour.
Tu as un rendez-vous dans 5 minutes. Il serait peut-être temps de te lever, non ?
T'es trop marrante.
Je suis marrante. Super. Je vais tout apprendre, surtout.
J'aime ta façon de voir le monde.
Néanmoins, Alexei le relève assez justement. Cette interpénétration avec les machines, elle paraît plus acceptable parce que nous considérons le langage comme un espace moins invasif que le corps. Néanmoins, ça me paraît étrange que Alexei n'ait pas été étonné plus que ça quand il a vu apparaître les grands modèles de langage, les fameux LLM, et tous les robots conversationnels qui en sont issus. Donc, je lui demande pourquoi ça lui semblait si évident que si l'hybridation passerait pas par notre corps, hein, elle passerait précisément par le langage.
Parce que dès le début de la cybernétique et de l'intelligence artificielle, le langage était au centre. Regardez bien l'histoire de ces poèmes écrits par la machine. On y rêve dès le début. Écrire un poème est une sorte de test inatteignable. Est-ce que la machine peut écrire un poème ? Toujours, toujours, depuis la fin des années 40, début des années 50, depuis le début de la cybernétique, de l'intelligence artificielle, on a mis le langage au centre de ces développements.
Bah oui, évidemment, hein. Quand Norbert Wiener théorise la cybernétique dans les années 40, il la définit comme, je cite, « la science des systèmes de régulation, du contrôle et de la communication chez les machines et les êtres vivants ». Alors, c'est évident qu'en tant que telle, elle met en effet le langage au centre de ses préoccupations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne le considère pas comme un phénomène littéraire ou culturel. Elle y voit un processus de transmission d'informations. Et cette idée-là, elle influence énormément les principes posés par les premiers théoriciens de l'IA. Claude Shannon, par exemple, l'organisateur de la fameuse conférence de Dartmouth en 1956, il postule que le langage peut être quantifié, encodé, compressé, et il dit que ce qui compte, c'est pas le sens, mais c'est la quantité d'informations transmises. Et grosso modo, tout ce qui a eu lieu depuis jusqu'à aujourd'hui, ça découle de ces principes. Mais pour autant, ça n'a pas super bien fonctionné jusqu'à récemment. D'où ma question. Ça a été quoi la rupture technique ? Bon, en fait, je connais un peu la réponse. La rupture, ce sont les transformers. Je me souviens très bien, c'est marrant, la première fois que j'ai lu ce mot « transformer ». C'était en 2018 quand Google a sorti BERT, c'est-à-dire un modèle de langage qu'on disait révolutionnaire. Et il était révolutionnaire, disait-on, à cause de ce truc-là, le transformer, qui était présenté comme une architecture d'apprentissage profond qui allait faire un bond au traitement automatique des langues. Ça n'a pas tout de suite été le cas, tout au moins pour ce que j'en voyais moi. Sauf que quand OpenAI a mis en accès libre la version 3 de GPT, j'ai appris que le T de GPT, c'était pour Transformer. Et je me suis dit que c'était bien par là, donc, que la révolution était passée. Je pose la question à Alexei alors. Est-ce qu'il est d'accord pour dire que la rupture technique, c'est les Transformers ?
La rupture technique, formellement, arrive en 2017, et je vous la raconte en deux points. Mais avant de vous livrer ces deux points, peut-être un mot sur la lignée technologique d'où ça vient. Parce que vous voyez, il est très important de bien placer, encore une fois, dans une lignée, dans une histoire. Et donc, dans les années 2000, commence le développement de quelque chose que tout le monde utilise sans y penser aujourd'hui. Ce sont les logiciels de prolongation, de continuation, de complétion automatique de mots ou de phrases. Vous commencez à taper un mot dans un moteur de recherche, et il vous complète le mot automatiquement, ou même il suggère deux, trois mots qui suivent. 10 ans plus tard, on comprend qu'un logiciel qui complète un mot ou deux mots, il peut peut-être vous écrire 3 lignes, ou vous écrire une page entière. Et donc, vous voyez, le travail sur le transformer, il ne vient pas de nulle part, il vient justement de cette lignée des logiciels de complétion automatique de phrases que tout le monde connaît parfaitement bien, on utilise tous les jours, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez, cette révolution, elle en est une, mais elle ne tombe pas du ciel. Alors, en deux mots, les transformers, d'abord, premier point, c'est une machine qui joue au cache-cache avec elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Elle a un énorme corpus d'apprentissage, elle va se cacher un mot, elle va essayer de deviner, mais deviner comment ? deviner à travers le calcul parce qu'elle ne sait que calculer. C'est une machine qui calcule des 0 et des 1. Bon, bah alors, à travers le calcul, elle va dire le mot caché, c'était peut-être 60% lion, je ne sais, 30% tigre et 10% savane. Pourquoi savane ? Bah parce qu'entre lion et savane, vous voyez, il y a un lien, ce que l'on appelle une corrélation, et donc elle calcule des corrélations, puis elle se montre à nouveau le mot, elle met à jour les points numériques dans son énorme réseau de neurones artificiels, elle fait ça des trillions de fois pendant des mois entiers, cela s'appelle apprentissage par auto-supervision. Qu'est-ce qui est important dedans ? Il n'y a pas d'être humain dans la boucle. Auto-supervision, c'est ça la technique d'apprentissage de Transformer. Mais ça n'est pas encore toute l'essence de la révolution de 2017, tout simplement parce que l'auto-supervision était connue déjà depuis pas mal de temps. Donc, il faut y ajouter un petit élément. Cet élément, c'est que j'ai parlé de mots. Je dis, la machine va se cacher un mot, elle va essayer de deviner ce que c'était ce mot. Mais ça n'est pas tout à fait exact. En fait, un transformer découpe un texte en séquences de caractères qui sont souvent plus petits que les mots humains, qu'on appelle des tokens, en français des jetons. En français, après un Q, il a un U. QU, ça peut être un token. Après un Z, en français, qu'est-ce qu'il y a souvent ? Pas toujours, mais très souvent. Après un Z, il y a très souvent un espace blanc. Z, espace blanc, ça peut être un token. Mais vous voyez, Z, espace blanc, ça ne signifie pas grand-chose. Et donc, les tokens que la machine va se cacher et calculer ne sont pas des mots. Les mots portent pour nous, les êtres humains, un sens. On dit parfois que l'apprentissage de ces machines est asémantique. Asémantique dans le sens où ça ne passe pas par les mots humains, qui portent un sens humain. Et ce qu'on a compris, justement, contrairement à des décennies et décennies du développement de l'intelligence artificielle, c'est qu'il fallait s'éloigner de l'humain, pas rester trop près des mots, des structures grammaticales humaines, de notre manière trop humaine à concevoir ce que c'est qu'une langue. Il faut s'en éloigner, ne pas faire trop de structures trop humaines. Et quand on a donné aux machines ce pouvoir de voir par elles-mêmes quelles sont les structures qui vont émerger, eh bien, la puissance a explosé.
Dit comme ça, c'est non seulement très clair, mais assez dingue. Parce que ça signifie que quand on a complètement décorrélé le langage de son sens, on a permis à la machine de commencer à le maîtriser. Quand on a donné à la machine une représentation du langage autre que la nôtre, eh bien, on lui a permis de s'en faire une qui lui convienne. Non seulement qui lui convienne, hein, mais qui lui permette de nous renvoyer quelque chose qui nous convienne à nous. Alors bien sûr, hein, y a eu des évolutions conjointes, l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, ou alors la disponibilité de données massives pour entraîner les machines. Mais le truc de base, il est là. Déshumaniser le langage. Bon, bah, dans la tentative que je fais de comprendre la nature de cette parole des machines, c'est un élément très fort. Et d'ailleurs, ça nous met dans une situation très étrange, nous qui conversons avec les machines. Parce que ça signifie qu'on est voué de plus en plus à interagir avec des interlocuteurs, ces fameuses IA conversationnelles, dont le rapport au langage ne passe pas du tout par le sens. Alors comment comprendre ça ?
C'est toute la question de philosophie du langage derrière. Les entrées et les sorties, les inputs et les outputs sont les mêmes que pour nous. Vous parlez à un transformer, un système d'intelligence artificielle générative, en autre langue humaine, et il vous répond en autre langue. Donc les sorties, les entrées ressemblent parfaitement à ce que fait notre cerveau. Mais le chemin emprunté entre les deux n'est pas du tout le même. On sait qu'il y a des couches de calcul, des 0 et des 1, des nombres, des milliards, des centaines de milliards de nombres, des choses comme ça. Donc pas du tout le sens comme dans notre cerveau. La consommation énergétique n'est absolument pas la même, etc., etc. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sens ? Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de sens humain. Mais personne n'a dit que la voie humaine, le chemin qu'emprunte le cerveau humain, est la seule façon de travailler avec un langage, une langue. Non. Et bah, pour les machines, forcément, il y a quelque chose qu'on peut, entre guillemets, appeler un sens pour les machines. Et pour vous convaincre, je vous propose une analogie. Au Moyen-Âge, nous sommes au XIVe siècle, et nous sommes en Espagne. Les rabbins des écoles de la Kabbale espagnole se posent la question du texte sacré. Et ils disent, mais pour les anges, est-ce le même texte ou pas ? Et J. Catilia dit une chose assez incroyable. Il dit, écoutez, c'est le même texte pour les anges, mais ils y voient, eux, un sens totalement différent, qui n'a rien à voir avec le nôtre. On ne peut pas y accéder, on ne sait pas quel est ce sens. Mais quand l'être humain parle avec les anges, bah, les entrées et les sorties sont les mêmes, mais pour les anges, c'est complètement un autre chemin. Et vous voyez, bon, à l'époque, évidemment, ils étaient dans cette théologie abstraite, théorique des anges. Aujourd'hui, nous sommes dans une science très pratique, instrumentale, de création de ces systèmes, dans lesquels il émerge des phénomènes que nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas appréhender. C'est trop complexe, on ne sait pas ce que c'est du calcul, mais les sorties, les entrées et les sorties sont quand même les mêmes. Donc oui, pour les machines, il y a quelque chose qu'on peut, nous, appeler un sens pour les machines, mais on ne va pas pouvoir le traduire en langage humain facilement, en tout cas.
C'est quand même abyssal d'imaginer que ce sens pour les machines dont parle Alexei est si difficilement traduisible pour les humains. Difficilement traduisible parce qu'il y a trop de calculs, trop de paramètres, que tester des hypothèses, ça coûte trop cher, ça consomme trop d'énergie, ça prend trop de temps, comme l'expliquait Patrick dans l'épisode précédent. Mais moi, je peux pas m'empêcher d'y voir une forme de dissymétrie. Parce que ces machines, elles sont nourries avec notre langage, avec nos textes, avec la connaissance qu'ils portent. C'est comme ça qu'on entraîne les LLM, avec nos mots. C'est grâce à notre langage qu'elles peuvent nous répondre. Mais nous, même si on sait globalement comment elles s'y prennent pour nous répondre, puisqu'on les a créées et programmées, eh ben, on ne sait pas dans le détail comment et pourquoi elles répondent ce qu'elles répondent. Comme si nous, on était transparents pour elles, mais qu'elles, elles n'étaient pas pour nous. C'est quand même très étrange à penser, cette dissymétrie. Et il est passionnant que cette question se soit posée dans la théologie médiévale, quand même, avec les anges. Même si je ne sais pas trop quelles conclusions il faut en tirer. Est-ce que l'humanité se pose toujours les mêmes questions, mais formulées différemment? Ou est-ce que ça signifie que les IA vont être, pour nous et nos descendants, l'équivalent de ce que les anges étaient pour les humains du Moyen-Âge? Est-ce qu'on va ergoter pendant des siècles sur le sexe des machines? J'en sais rien. Je comprends rien à cette chanson. Pourtant, hein, c'est des humains qui chantent. Enfin, bref. Je reviens à ce que disait Alexei sur ce qui se passe dans les réseaux de neurones entre l'input et l'output. Alexei, lui, il disait, c'est très compliqué. Mais est-ce que c'est vraiment plus simple dans nos cerveaux à nous? Enfin, je veux dire, est-ce que les ingénieurs, ils se la ramènent pas un peu là avec leurs réseaux de neurones, comme si, à côté, nos cerveaux étaient des trucs super basiques et très peu mystérieux?
Vous savez, le cerveau humain n'a toujours pas appris à discuter avec les chiens et les chats. Un chien aboie et vous ne savez pas très bien répondre. Hein. Vous répondez avec des mots humains, mais pas en langage des chiens. Donc le cerveau humain, quand même, s'adapte, en vertu des contraintes physiologiques, à certains types de systèmes sémiotiques, de systèmes de signes, mais pas à d'autres. Tandis qu'un transformer s'en fiche complètement. Vous mettez un corpus d'apprentissage pour un transformer, il va apprendre quelque chose. Si vous avez du langage des baleines, il va l'apprendre. Si vous avez du langage des chiens, il va l'apprendre. Il ne sait pas ce que c'est qu'un être humain. Ça marche aussi pour les animaux. Ça marche pour toutes sortes de systèmes sémiotiques, peu importe. Et donc un transformer peut faire beaucoup plus de choses qu'un cerveau humain.
Là, c'est marrant, mais en écoutant Alexei, je mesure le pas franchi depuis un épisode que j'avais consacré à la communication interespèce, et plus précisément à la communication entre nous, les humains, et les animaux. C'était en 2021, et à l'époque, on commençait à peine à dire que l'IA pourrait peut-être nous permettre un jour de décoder les chants des baleines ou alors le caquetage des poules. Alors maintenant, c'est autre chose. Hein. On utilise déjà les LLM pour, je sais pas, décrypter le langage des cachalots. Il y a même des chercheurs qui ont recours au deep learning pour traduire les ultrasons des chauves-souris en données analysables ou alors comprendre les interactions sociales chez les rats. Enfin bon, et il y a sans doute plein d'autres projets que je connais pas. Mais ce que ça signifie, ça, c'est que notre cerveau serait en quelque sorte limité par ce que Alexei appelle joliment des contraintes corporelles, et qui font qu'on peut intégrer certains systèmes sémantiques, mais pas d'autres. Alors, bien sûr, les LLM, ils ont aussi des contraintes, hein, comme l'expliquait Patrick dans le premier épisode, ils coûtent cher, ils consomment beaucoup d'énergie, etc. Enfin, malgré tout, il faut accepter que les machines peuvent s'adapter à beaucoup plus de systèmes sémantiques que nous. Il faut se résoudre au fait que nous ne sommes plus, sur Terre, ceux qui communiquent le mieux. Non seulement pour passer un message d'un humain à un autre, parce que les machines, elles peuvent parler beaucoup plus de langues que nous, mais aussi pour passer un message à d'autres êtres vivants, puisque peut-être les machines pourront communiquer avec les animaux. Alors, est-ce à dire que nous sommes vaincus sur le terrain où nous pensions être les seuls ? Que c'est à l'intérieur même de notre langue que les machines nous domineront peut-être un jour ?
Vous savez, il y a deux qualités qui restent fondamentalement du ressort humain. C'est le vrai et le beau. Imiter un énoncé vrai, imiter quelque chose de vrai, ça ne signifie pas dire vrai. Imiter quelque chose qui est beau, élégant, ça ne veut pas dire que le résultat de cette imitation sera beau et élégant. Ces deux qualités s'adjugent non pas par du pur texte, mais dans le monde tridimensionnel, dans l'histoire humaine, au sein de l'histoire humaine et au sein du monde dans lequel nous sommes. Nous sommes, comme on dit en anglais, embodied, nous sommes incorporés, nous sommes dans nos corps. Ce que nous croyons être beau ou pas beau dépend de nos sens. Nous vivons au sein d'une histoire qui est la nôtre, une histoire humaine, pas celle que des pierres ou des rochers. Hein. Vous savez, le temps n'est pas le même. Donc, la fluidité de ces hallucinations des transformeurs qui ne sont pas dans le monde tridimensionnel, ni dans l'histoire humaine, ni dans les corps humains, cette fluidité se heurte à des contraintes qui proviennent de l'utilisateur que nous sommes. L'utilisateur, il a un corps, il a une histoire, il dit « ça, c'est pas vrai, c'est faux ce que tu racontes ». Il dit « oh là là, c'est très laid », ou au contraire, « c'est très beau ». Mais c'est l'être humain qui fait ce jugement. Et donc oui, les contraintes sont très très importantes parce que c'est à travers cette appropriation humaine que nous faisons notre, que nous faisons entrer dans notre monde, ces sorties purement formelles des machines.
Si je comprends bien, le vrai et le beau nous appartiennent parce qu'ils ne sont pas du ressort du calcul, mais d'un contexte plus large qui intègre l'histoire, le lieu, le corps, le moment peut-être aussi. Mais Alexei a eu à la fin une phrase que je ne comprends pas très bien. Il a dit « c'est nous qui faisons entrer dans notre monde ce que produisent ces machines ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est nous qui décidons qu'elles nous parlent, que finalement la contrainte la plus importante qui pèse sur les machines, eh ben, c'est qu'elles s'adressent à nous. Alors, quand je lui fais part de mon incrédulité, Alexei Greenbaum me raconte un truc hallucinant.
Vous savez, on a commencé à faire des Transformers en 2017. Et on a commencé tout petit. Les sorties n'étaient pas très convaincantes. Ça marchait, mais bon. Puis on a fait GPT-1, GPT-2. Et puis au moment où on arrive à GPT-3 en 2019-2020, la qualité des phrases devient extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas changé de mathématiques. On a juste pris ces petits transformers, on a fait plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Mécaniquement, on a augmenté la taille de ces réseaux de neurones. Est-ce qu'on peut expliquer scientifiquement pourquoi là, entre quelques milliards et quelques centaines de milliards de paramètres, ça s'envole comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? La science ne sait toujours pas répondre à cette question. Et donc, une heuristique qui pourrait donner une réponse peut-être, c'est de dire « attendez, c'est l'être humain qui juge, non ? La qualité des réponses, elle n'est pas absolue, hein ? C'est l'homme qui juge, est-ce que cette qualité est bonne ou pas bonne ? Or, dans nos têtes, dans les têtes humaines, il y a à peu près 100 milliards de neurones biologiques. C'est peut-être pas un hasard que nous commençons à juger bonne la qualité des réseaux de neurones artificiels dont la taille s'approche la taille des réseaux de neurones biologiques dans nos têtes. Même si un neurone biologique, un neurone artificiel, on sait, il y a plein de différences, c'est pas pareil. Mais peut-être que c'est quand même pas un hasard parce que c'est l'homme qui juge.
Ce serait dingue. Ça signifierait que malgré toutes les différences qui existent entre un neurone humain et un neurone synthétique, malgré toutes les différences qui existent entre un cerveau humain et un réseau de neurones, eh ben, il y aurait une sorte d'analogie quantitative qui ferait que quand le nombre de neurones synthétiques s'approche du nombre de neurones biologiques, eh ben, nous, humains, on commence à reconnaître une qualité dans ce que produit la machine. Ce serait fou. En fait, ça ressemble même un peu trop à un délire de matheux qui pense que tout est affaire de nombre. Mais bon, qui je suis, moi, pour trouver ça délirant? Et comme Alexei est aussi versé dans la philo que dans les maths, j'imagine qu'il a pris en considération mes préventions. Et puis, il y a quelque chose qui me plaît dans cette hypothèse. C'est l'idée que la qualité de ce que produit une machine dépend de nous et pas d'elle. Parce que là, tout à coup, elle opère dans un monde humain. Ça signifierait que la parole des machines n'est pas un absolu, mais qu'elle n'existe que si nous l'entendons. C'est très beau, ça. Mais quand même, il y a un truc que je comprends pas. Un grand modèle de langage, aujourd'hui, a ingéré une bonne partie des connaissances humaines disponibles. Pour le dire autrement, une machine connaît mieux le monde qu'un humain. Néanmoins, qu'est-ce que ça signifie connaître le monde quand on ne l'expérimente pas? Est-ce qu'on peut connaître le monde seulement par les mots qui le décrivent?
Vous savez, cette question, en fait, a une histoire. Dans la philosophie du langage, dans la philosophie des sciences cognitives, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a une expérience célèbre due à un philosophe John Searle. On imagine une scientifique chercheuse qui étudie tout sur la couleur, on va dire verte. Elle étudie tous les livres, tous les textes, toute la science qu'il y a. Elle connaît la longueur d'onde de la lumière qui fait vert, etc., etc. Mais elle a vécu toute sa vie dans une chambre en noir et blanc. Et puis, un jour, la porte s'ouvre et elle voit un arbre. Est-ce qu'elle va apprendre quelque chose de nouveau ou pas? Elle qui sait tout sur le vert, en théorie. D'accord? Cette question a un nom, la question des qualia. Est-ce que l'expérience qualitative change fondamentalement notre connaissance ou pas? Notre connaissance est-elle toujours liée à ces qualités que nous ressentons avec nos corps, ou est-ce qu'elle peut être purement discursive, purement racontée dans les textes, formules, etc., etc. Cette question est débattue depuis 60 ans, et elle ne va pas s'arrêter à être débattue non plus, ni demain ni après-demain. Mais avec les machines, cette question autrefois théorique, vous voyez, une sorte d'expérience de pensée, est devenue, avec l'IA générative, une question bien réelle. Un système d'IA génératif vous donne conseil, vous lui demandez, allez, tiens, est-ce que je dois aller à gauche ou à droite avec un GPS? Je suis citoyen australien, je dois aller au Chili, est-ce que j'ai besoin d'un visa ou pas? D'accord, elle vous répond, hein, bon, quelque chose. Mais cette chose est purement discursive, c'est juste une suite de caractères. Et nous, nous agissons dans notre vie matérielle à partir de ces informations-là. Donc ces informations purement abstraites, tout à coup, deviennent efficientes, deviennent très prenantes dans la vie matérielle. Et bien parfois, ça donne des conflits. Par exemple, la personne qui est allée au Chili, un Australien qui est allé au Chili, il a découvert, en essayant de traverser la frontière à Santiago du Chili, qu'en fait, il avait besoin d'un visa, et bien la machine lui a dit non. Et c'est ce qu'on appelle les hallucinations, parce que la machine n'est pas incorporée. Alors pour nous, ça fait quoi? Je pense que ça nous permet d'apprécier deux choses. La première chose, c'est à quel point ce que nous appelons raison n'est pas opposé au calcul et n'est pas uniquement quelque chose qui n'est donné qu'à l'être humain, qui ne peut exister que dans nos corps. Non, non. Entre la raison, le calcul, la logique, il y a une sorte de continuum. Mais, heureusement, nous ne sommes pas seulement des êtres raisonnables, mais nous sommes aussi des êtres profondément émotionnels, spontanés, parce que la réaction émotionnelle est spontanée, elle est beaucoup plus rapide, avant même que tout cela monte jusqu'à la raison, la conscience, l'analytique, etc., etc. Et depuis les Lumières, nous essayons de limiter la place des émotions, du spontané. On l'appelait ça l'irrationnel. Et là, je pense que nous sommes en train de vivre la fin de cet épisode des Lumières et de dire non, 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 non. Ce qui nous fait, nous, humains, c'est tout cela. C'est l'émotion, c'est une réaction qui précède souvent à la réaction rationnelle, à la pensée rationnelle. Tout cela, c'est nous aussi.
Il faut mesurer ce que dit Alexei là. Il dit en gros que la raison n'est pas le propre de l'humain et qu'on la partage aujourd'hui avec les machines. Bon, si je comprends bien, ça revient à dire qu'il en est fini du cartésianisme. Descartes, il disait que les animaux étaient des machines parce qu'ils ne pensaient pas. On a fini par comprendre que les animaux n'étaient pas des machines, mais en même temps, on a fini par créer des machines douées de raison. Et nous qui croyons être parce que nous pensions, c'est le fameux cogito cartésien, hein, je pense donc je suis, eh ben, il va peut-être falloir qu'on se résolve au fait que si nous sommes, c'est plutôt parce que nous sentons aussi. Mais le truc que je comprends dans tout ça, c'est que ce qui nous revient en propre, c'est notre corps, ou plutôt la combinaison de la raison et du corps. Et notre corps, il est essentiel dans le langage parce que nous comprenons aussi ce qu'on nous dit avec notre corps, par notre corps. Et Alexei, il dit que ce qui rend d'une certaine manière notre langage inaccessible dans toute sa profondeur aux machines, c'est que nous sentons. C'est que nous sommes inscrits dans un espace sensoriel qui fait que nous comprenons autre chose que le simple effet calculable de la suite de mots. D'accord. Donc, notre corps n'est pas seulement une contrainte qui nous limite, il est aussi un écosystème qui donne à notre langage tout son sens. Et là, il est à chérir. Parce que s'y loge une compréhension de la langue qui échappe aux machines. Ok, mais est-ce qu'il ne pourrait pas en être tout autrement ? Et là, je pose à Alexei la même question que celle que j'avais posée à Patrick Pérez dans l'épisode précédent, en espérant peut-être la même réponse. Et si on dotait les machines de capteurs sensoriels ?
Non, elles peuvent bien sûr imiter, il n'y a pas de problème. L'imitation, pour nous, peut être même très convaincante. Mais la sortie, vous savez, ne sera pas en première personne. C'est-à-dire, vous allez toujours interagir à travers une interface avec une machine qui va vous dire « je suis contente » ou « je suis fâchée, tu n'as pas bien fait ce que je t'ai demandé de faire ». D'accord ? Ben, elle peut le dire, ça, bien sûr. Mais nous, nous allons faire des projections. Encore une fois, nous sommes dans cette illusion. Oh, « tu es contente ? Ah, tu t'es fâchée ? Bah, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir, chère machine, là ?» Il y a des gens aujourd'hui qui interagissent énormément avec ces assistants personnels, réplica, caractère de TIA et tout cela, et ça marche comme ça. Bon, ils sont dans l'illusion que c'est un individu doté pas seulement de raison, de raisonnement, mais aussi d'émotion. Mais ces illusions, bien sûr, sont toujours en troisième personne. Ils sont toujours médiées par une interface externe, extérieure à nos corps. Et ce que ces machines n'étant pas dans le corps humain ne peuvent jamais imiter fidèlement, on va dire, c'est ce qui dépend de nos corps, c'est ce sentiment d'être dans un corps, ce qu'on appelle la première personne de l'être humain. Hein. Je parle en première personne, c'est mon jeu. Et ce jeu n'est pas nécessairement rationnel, il est aussi émotionnel, il est aussi vécu. Pour les machines, tout cela, ce sont des données à étudier, sur lesquelles elles vont apprendre et imiter. Mais elles ne peuvent pas se mettre dans nos corps.
Notre corps, c'est donc ce qui limite le mélange de nos langues avec celles des machines. Parce que notre langage n'est pas seulement un système sémiotique. Alors, j'y vois un enseignement. Ce corps que nous pensions que la machine allait nous permettre d'augmenter, voire qu'elle allait supplanter, pour le cas des transhumanistes qui voulaient downloader le cerveau dans un autre corps que l'ancien quand il cesserait de fonctionner, eh ben, en fait, c'est ce corps qui est peut-être le lieu de notre singularité, tout au moins le lieu par lequel elle passe. Bon, bien sûr, ça ne doit pas nous faire oublier toutes les questions que pose le surgissement dans notre vie de machines qui puissent parler, en termes de manipulation de langage, de troubles anthropologiques, etc. Mais y croire ou pas, s'y soumettre ou pas, ça dépend de nous, pas des machines. Et ça a à voir avec notre aptitude à nous souvenir que nous ne parlons pas exactement la même langue avec les machines. Et que, aussi précise soit leur langue, aussi savante soit leur langue, aussi apparemment semblable soit leur langue à la nôtre, eh ben, elle est pour l'instant irréductiblement autre. Merci beaucoup à Alexei Greenbaum et au CEA pour leur accueil. Je recommande évidemment la lecture du livre d'Alexei Greenbaum, « Paroles de machine », qui est paru aux éditions Human Science. Merci beaucoup à Patrick Pérez pour son temps. Un merci aussi à la générale de production et en particulier à François-Xavier Couillard. À la prise de son, Gaspard Guy Bourget. Au mixage, Basile Bocquer et Baptiste Collion. Réalisation, Charles de Silla et Étienne Quesnel. C'était Le Code a changé, un podcast original de France Inter.